C'est parti, on peut y aller! Hello, hello! Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Ici Alexandra Vignon, thérapeute et coach spécialiste de l'anxiété et plus particulièrement du lien entre l'anxiété et la peau. Avec ce podcast, j'ai à cœur de t'aider à reprendre le contrôle de ta santé, à te sentir bien dans ta peau et à transformer ta vie sans bullshit et sans culpabilité. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine, on va parler du lien entre la peau et le psychisme. Et j'avais envie de te partager certaines choses qui sont selon moi indispensables pour retrouver une peau saine. Peut-être que tu as déjà médité un petit peu là-dessus, parce que je t'avais posé la question qui était de savoir si tu provoquais ton acné inconsciemment, justement par rapport à plein de choses. Et moi, je vais t'expliquer en fait par le biais de mon histoire comment, pendant une phase de mon acné, je l'ai provoqué en fait cet acné pour justement m'empêcher plein de choses. Alors déjà, il faut savoir que ton cerveau, il est capable de faire des tas de choses que tu n'imagines même pas. Il faut savoir que ta peau, elle est reliée à ton système nerveux, que le système nerveux de dermique est très complexe, que le système cellulaire dermique est extrêmement complexe et que tout est lié. Je le répéterai jamais assez, tout est lié. Et lorsque je souffrais d'acné kystique sur le visage, un des leviers pour ma guérison, ça a été d'abord de reconnaître que l'état de ma peau était en fait en partie une barrière pour empêcher l'autre de s'introduire dans mon monde intérieur, qui était un monde plutôt en chantier à cette période. Je ne m'en rendais pas forcément compte moi-même parce que j'étais un peu en mode je cours à 100 à l'heure, je fais plein de trucs, je suis le bon petit soldat qui fait tout ce qu'on lui demande. Voilà, j'étais très très occupée et j'étais en train de m'épuiser concrètement. C'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, mon acné s'est décuplé. Et vraiment de façon mais inexplicable parce que j'avais déjà déterminé des causes de mon acné. Mais alors là, il y a eu cette période très très compliquée pour moi psychologiquement et alors ça a décuplé mon acné. Alors je vais pas te mentir, le fait d'avoir cette barrière via ma peau qui était recouverte de boutons, c'était vraiment donc un moyen inconscient d'empêcher l'autre de s'introduire dans mon monde. Pourquoi je l'ai fait ? Pour des tas de raisons. Des tas de raisons qui s'expliquent par mon passé, par mon histoire, et ces événements font que j'ai rejeté beaucoup de gens dans mon entourage. Et j'en rejette encore. Hein. Je ne suis pas parfaite là-dessus, j'en rejette encore, mais je les rejette consciemment, et je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour mon bien-être, vraiment pour me sentir en accord avec moi-même. Et d'ailleurs, j'avais déjà parlé de ça sur le podcast, à plusieurs reprises, et notamment via un podcast que vous avez beaucoup apprécié, justement sur ce qu'on appelle les personnalités évitantes. Et en vous partageant cela, je vous donnais déjà beaucoup d'informations sur ma manière d'être à ce moment-là, et ce qui fait que ça a contribué à mon mal-être encore plus et à encore plus d'acné. Une personne, je parle pour tout le monde, quand je parle, là je parle de mon histoire, mais je parle aussi de tout le monde, mais la majorité des gens qui souffrent de problèmes inflammatoires, des problèmes de peau, ont souvent connu le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, donc qui sont les fameuses 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Voilà, alors certaines, du coup, ont plus connu un type de blessure que d'autres. Moi, en ce qui me concerne, j'ai connu le rejet, j'ai connu l'abandon, j'ai connu l'humiliation, j'ai connu la trahison, j'ai connu l'injustice. Certaines en effet un peu plus que d'autres, mais voilà, comme tout le monde en fait. Et si je parle assez ouvertement d'ailleurs de tout ça, que j'en ai pas honte, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout de l'ordre du traumatisme pour moi. Ça l'a été pendant un temps. Hein. Pendant un temps, quand j'en parlais, j'étais très réactive, je me sentais mal, j'avais envie de pleurer, j'avais des émotions désagréables dans mon corps, je sentais que c'était réactif. Et là, je ne le suis plus parce que c'est vraiment de l'ordre du mauvais souvenir. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast justement sur comment on différencie le trauma du mauvais souvenir et comment on peut essayer de gérer ça. Je ne raconte pas tout dans les détails parce que je tiens quand même un minimum à garder un minimum une vie privée, une vie intime, mon jardin secret, parce que je ne suis pas que The Good Balance, j'ai aussi une vie personnelle. Et donc, je tiens quand même à garder cette intimité et vraiment, quand même, voilà, pas tout raconter dans les détails. Parce que, selon moi, de mon point de vue, c'est peut-être mon côté un peu vieillarde, mais il y a des choses qui doivent rester de l'intime et qui ne se disent pas publiquement. Alors, certaines personnes le font. Vont peut-être partager des choses qui sont horribles et c'est très bien qu'elles le fassent parce que du coup ça permet à d'autres personnes de se sentir comprises, entendues. Moi je rentre pas trop dans les détails parce que c'est pas mon objectif, c'est pas ma mission avec The Good Balance. Mais j'en parle parce que c'est un lien avec la peau. Ma peau donc a longtemps été une barrière pour mettre les autres à distance parce que j'ai été longtemps entourée de proches toxiques. Pour employer des mots, on va dire... élégant, on va dire que ma mère avait la main leste avec moi. Je ne suis même pas sûre qu'elle s'en rende compte, même en prenant du recul. Je pense que pour elle, c'était normal. Et elle-même, ayant été maltraitée par sa propre mère, c'était un peu, je pense, rentrer aussi dans ses manières de faire et sa manière d'être. Mon ex-beau-père, son ex-mari, était également violent. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, dans mon crâne, les coiffeuses sont toujours en panique quand elles me touchent mon crâne. En fait, on me tapait souvent derrière la tête. Et en fait, ça a créé en fait, une malformation osseuse au niveau de mon crâne. Et j'ai une bosse. Et à chaque fois, quand les gens doivent me manipuler, que ce soit les kinés, les ostéos, et tout le monde me dit « Mais c'est quoi cette bosse ?» Et moi, ça m'avait beaucoup stressée. Et en fait, j'en avais discuté avec un médecin. Et j'avais demandé à ma mère si à la naissance, j'avais cette bosse. Et en fait, elle m'a dit « Non, non, t'as jamais eu cette bosse. Quand t'es des bébés, ça avait pas cette bosse. Je m'en souviens très bien, machin truc. » Et en fait, en discutant avec mon médecin m'a dit « Vu les maltraitances en fait, que vous avez subies et le fait qu'on vous frappe derrière la tête, a pu créer ça parce qu'on a fait un scanner, etc. Parce qu'au départ, on s'imaginait le pire, on s'imaginait une tumeur. Et en fait, pas du tout, c'est juste de l'os. Donc voilà, pour vous donner un peu le niveau de violence. Quoi. Et mon père, il n'a pas joué le bon jeu non plus, il n'a pas joué son rôle puisque lui m'a abandonnée. Il a laissé passer des choses qu'il n'aurait jamais dû laisser passer en tant que père, des choses qu'il a entendues et qu'il n'aurait jamais dû en fait laisser passer tout simplement. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas là pour faire leur procès. C'est pas le but, franchement, j'en ai même pas envie. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas été aimée, je n'ai pas été une petite fille aimée inconditionnellement. Et j'ai été aimée sous condition. En gros, il fallait que je ramène des bonnes notes, il fallait que je sois toujours dans les premières de la classe, il fallait que je sois toujours bien sous tout rapport, que je sois le bon petit soldat qui fasse ce qu'on lui dit, que je ferme ma gueule, et voilà, que je ne dise rien, que je ne pleure pas, que je ne fasse pas de bruit, j'avais pas le droit de faire des instruments de musique, il fallait que je fasse des choix pour tout. Bref, je vous passe le détail, mais ma vie n'a pas été... une vie d'enfant très créatrice, créative, qui sautait dans les flaques, qui pouvait se mouiller ses chaussures sans se prendre une benne dans la tronche. Bref, je vous passe les détails, mais je n'ai pas eu cette enfance-là du tout. Et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter, à avoir eu le même type justement d'enfance. Aussi, histoire de couronner le tout, parce que sinon c'est pas rigolo, j'ai subi du harcèlement scolaire à l'école primaire et collège, ça s'explique, parce que j'étais très différente des autres enfants, j'étais très introvertie, j'étais studieuse, et du coup, j'étais un peu le souffre-douleur, parce que je disais rien, j'avais pas de copine, et j'ai tout de suite été mise de côté, d'autant plus que là où ça m'était arrivé, c'était dans une école à la campagne. Et en plus, mon ex-beau-père était militaire et donc j'étais en plus cataloguée comme la fille du militaire. Bref, c'était pas fun. Et ce qui était très intéressant, et c'est en discutant après justement en psychologie, etc., que y a un truc que je comprenais pas dans ma tête de petite fille, c'était que je comprenais pas pourquoi ma mère, elle était super en colère et ça la mettait dans un état second quand elle savait que les autres me maltraitaient à l'école. Parce que ça avait été loin, en plus, les maltraitances à l'école, ça avait été très loin. Et moi, je ne comprenais pas, parce que je me disais, mais en fait, elle me fait exactement la même chose que les gamins à l'école, voire même pire. Donc, dans ma tête de petite fille, c'était hyper confus. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était une drôle de manière d'être aimée, quoi. Et j'ai bien compris, évidemment, plus tard, que ce n'était pas du tout de l'amour maternel et que c'était simplement, en fait, elle devait être la seule tout simplement à avoir le contrôle sur moi et elle devait être la seule à passer ses nerfs sur moi. Et personne d'autre n'avait le droit, en fait, de faire ça, à part elle. Et donc, ça a été assez long avant que je reprenne le contrôle et que je prenne conscience de tout ça et que je mette des distances, justement, parce que moi, j'étais vraiment cette petite fille dite loyale, ça veut rien dire, mais cette petite fille qui est le bon soldat, qui va voir ses parents, qui les respecte, qui machin, qui truc, alors qu'elle a été totalement maltraitée. Donc, c'est hyper important pour moi de vous le partager parce que je sais que vous êtes nombreuses dans ce cas et c'est pour ça que je vous le partage. Et ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Que ces situations que j'ai vécues durant mon enfance et durant mon adolescence ont été des situations complètement abusives, en fait. Moi, j'en avais pas conscience. C'était tout à fait normal dans ma tête parce que j'avais pas d'autre point de comparaison dans ma réalité. D'autant plus que je vivais en enceinte militaire et donc j'étais vraiment dans un environnement hyper strict où je ne pouvais pas sortir après 19h, machin truc, fallait que je sois rentrée. Non, bref, je vous passe les détails, mais... J'avais pas de point de comparaison, parce que je côtoyais quasiment personne, mes parents côtoyaient pas grand monde non plus. Et c'est vraiment par la suite, c'est surtout à partir du lycée, où quand j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres personnes, et du coup à être de plus en plus loin de mes parents, que j'ai compris que, en fait, c'était pas du tout sain ce que je vivais chez moi. Et c'est les autres personnes qui m'ont permis de m'en rendre compte. Surtout à travers mes petits copains, en voyant leur famille, en côtoyant des copines qui avaient des parents très sains, très à l'écoute, très dans l'amour inconditionnel. Évidemment, des parents qui avaient aussi une autorité, mais des parents sains, quoi, pas toxiques. Donc, malgré tout, j'ai fait la paix avec tous ces gens toxiques autour de moi qui m'ont quand même rendu très mal dans ma peau pendant très longtemps, parce que ça m'a suivi pendant longtemps, ça m'a suivi pendant mes études supérieures aussi. Et c'est vraiment cette difficulté de construction qui a fait que je me suis cherchée pendant très longtemps. Je me suis cherchée très longtemps via les pratiques spirituelles, via le yoga, via plein de choses. Et je sais que je suis loin d'être la seule dans ce cas. C'est pour ça que je le partage ici. Voilà, c'est important de savoir qu'il y a plein de gens qui n'ont pas été aimés de façon inconditionnelle. Ce n'est pas normal. Quand on fait un enfant, l'objectif, c'est de l'aimer sans condition, quels que soient ses défauts et quelles que soient les conneries qu'il pourra faire, parce que ça fait partie de la construction de l'enfant. Et certaines personnes ont vécu des choses très traumatisantes et n'en parlent pas, n'osent pas en parler parce que c'est tabou, parce que elles ont honte et parce que elles sont vraiment dans ce truc de loyauté et de se dire que en fait si elles parlent, elles vont être rejetées encore plus. Et elles ont peur d'être rejetées parce qu'elles ont déjà eu du mal à intégrer un groupe, elles ont déjà eu du mal à se faire accepter, à se faire aimer. Donc c'est très compliqué pour elles d'en parler et c'est ok, c'est normal. Donc, parmi ces personnes-là, je vous le dis officiellement sur le podcast parce que ça fait des années que j'existe maintenant et ça fait des années que je parle avec beaucoup de monde sur mes réseaux sociaux et notamment par mail. Et en fait, la majorité des personnes qui sont anxieuses et qui ont des problèmes de peau ont vécu ça, tout ce que je viens de vous dire. D'une manière ou d'une autre, pas exactement de la même manière, mais ont vécu ce même type de schéma de construction d'elles-mêmes. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans les problèmes de peau, donc les personnes avec qui j'ai beaucoup échangé, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu en fait d'attention physique, de tendresse, de caresse de la part des parents, des câlins, etc. Et c'est quand même quelque chose qui est très important parce que notre peau, on l'a partagée déjà avec notre mère dans notre ventre, dès les premières semaines de gestation dans le ventre de notre mère. Et il y a autre chose qui a été démontrée un peu plus tard, c'est que le peau à peau aide beaucoup aussi au développement neurologique de l'enfant. Et ça, le système nerveux et la peau ne faisaient qu'un, surtout pendant les premières semaines de notre vie dans le ventre de notre mère. C'est ce qu'on appelait l'ectoderme ou l'ectoblaste. C'est dans le jargon scientifique. Mais tout ça pour dire que la peau et le système nerveux étaient confondus. En plus, si notre mère était quelqu'un de pas très apaisé, elle vivait des trucs un peu compliqués, ou voilà, dans une relation toxique elle-même, ou avait un background un peu compliqué, il faut savoir que toutes ces informations, on les récoltait nous, en tant qu'embryon et en tant que fœtus, en tant que bébé en construction. Et les recherches en épigénétique aux États-Unis l'ont démontré, que même tous les traumas très anciens dans nos familles étaient transmis dès notre conception. Et ça, c'est assez incroyable, mais ça a été démontré. Donc notre peau, il faut bien comprendre qu'elle enregistre tout via les systèmes nerveux, les systèmes immunitaires. Et donc, malheureusement, on ne part pas tous avec les mêmes chances dès la naissance. Parce que selon là où tu vas naître, dans le type de famille dans lequel tu vas naître, et bien malheureusement, tu ne vas pas forcément être très épanoui et te construire avec beaucoup d'apaisement. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Et malheureusement, chez les femmes
très anxieuse, eh bien, il y a vraiment eu cette problématique-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il est important de partager. Et donc, voilà, s'il n'y a pas eu de lien, de tendresse, de contact avec la mère notamment, eh bien, le petit va vraiment se développer de façon, j'allais dire, c'est pas éparse, mais de façon dysfonctionnelle. Et il ne va pas pouvoir se construire une sécurité intérieure comme un enfant qui va être désiré, aimé, via lequel on va lui donner beaucoup d'amour, de tendresse, etc. Et ça, les chercheurs l'ont démontré depuis à peu près les années 80, donc ça reste très récent. Il y a vraiment eu beaucoup de liens entre la peau et le psychisme, notamment, et j'en ai déjà beaucoup parlé sur le blog, de Didier Anzieux. Donc lui a créé le concept psychanalytique, le moi-peau. Donc il parle de beaucoup de choses en lien avec la peau, notre façon de réagir, notre sexualité, etc. Et il y a eu d'autres chercheurs, hein, notamment en psychologie, qui ont développé tout cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails là aujourd'hui dans le podcast, mais vous pourrez retrouver tout ça aussi sur le blog. Et ce qui est intéressant, c'est le psychothérapeute aussi Jacques Martel, qui a été un des premiers finalement à avoir cette conception philosophique, on va dire, et qui disait d'ailleurs que notre peau était comme l'écorce d'un arbre et qu'elle isole en fait nos cellules et nos composantes de l'environnement extérieur. Et il entend par là cette notion de barrière dont je vous parlais justement au début de cet épisode. Donc si ta peau a été une barrière remplie de boutons, en tout cas moi ça a été mon cas, c'est pour ça que je te posais la question dans un dernier épisode où je te demandais est-ce que c'est toi qui inconsciemment a provoqué ton acné justement parce que tu voulais faire une barrière avec le monde extérieur. C'est pas anodin parce qu'aujourd'hui ça a été démontré. Moi, dans mon cas, cette barrière, elle m'a servi parce que je n'osais pas dire non aux gens. J'avais peur de les blesser, moi, bon petit soldat gentil qui fait tout ce qu'on lui dit. J'avais peur de m'affirmer. Et puis quand j'ai réussi à m'affirmer au départ, c'était un peu chaotique. C'était vraiment de l'affirmation malsaine, quoi. Et puis, j'avais peur d'être rejetée. J'avais peur de me sentir abandonnée puisque j'avais déjà trimé toute ma vie pour me faire aimer par mes parents du mieux que je pouvais, où je me suis damnée pour essayer de me faire aimer et, en tant que petite fille qui s'est construite un peu bizarrement. Donc, c'était cette peau vraiment m'a servi de barrière. Et du coup, ça m'a permis aussi de porter un masque. Soit de porter un masque, en tout cas, soit de m'isoler, parce que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. J'ai eu un moment où je portais un masque, où je n'étais pas du tout moi-même, et puis j'ai eu un moment où je me suis complètement isolée, en fait. Et puis je me racontais plein d'histoires, que je me sentais beaucoup mieux seule, que de toute façon, les autres, c'était tous des cons, et en gros, j'étais plus du tout capable de m'adapter au monde. Et donc, bah, je rejetais le monde entier, tout simplement. Mais en même temps, j'avais besoin du monde pour me sentir... aimer aussi parce que nous sommes des êtres interdépendants et on ne peut pas vivre les uns sans les autres. C'est important d'avoir une vie sociale, très très important. Une vie sociale avec des gens qui sont sains pour nous, évidemment. Et donc moi, c'était un vrai paradoxe que je vivais pendant ces années-là, c'est que j'étais à la fois dans le mal-être le plus total, j'avais l'acné qui se développait encore plus parce que j'étais dans un mal-être mais vraiment intense. Et donc c'est vraiment à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je fasse un travail de connaissance de moi, où j'ai commencé à déconstruire les choses que je croyais sur moi. Des croyances, on en a tout le temps, toute notre vie, mais c'est bien de les déconstruire au fur et à mesure de notre vie, justement, pour avoir une vie de plus en plus riche et palpitante. Et donc, j'ai commencé à déconstruire plein de croyances, plein de conditionnements. Et puis, du coup, je me suis reconstruite. C'est un peu comme si on déconstruisait un petit bonhomme, là, un truc qu'on fabrique en Lego, et puis pouf, on le reconstruit. Et c'est vraiment ça qui a été le levier le plus important et qui m'a permis de retrouver la santé et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une peau saine et que je n'ai plus ces problèmes de peau, alors que vous avez beaucoup de gens qui, en fait, ne se sortent pas de leurs problèmes de peau parce qu'en fait, elles ne font pas le travail sur elles-mêmes. Et ce n'est pas de la spiritualité de bas étage. Aujourd'hui, les études, que ce soit en épigénétique, que ce soit en neurosciences, que ce soit en psychologie, ont toutes démontré que le psychisme était relié à la peau. Donc, moi-même, je ne l'ai pas inventé. On a commencé à en parler quand je suis née, dans les années 80. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai fait un gros travail de sécurité intérieure, vraiment de nourrir cette sécurité. J'ai fait un gros travail, en fait, d'alignement, si je puis dire. Et c'est tout ce que j'ai condensé dans le programme, justement, à fleur de peau. donc ce travail sur l'anxiété dont je parle toujours, qui j'espère va réouvrir ses portes dans quelques semaines, parce qu'à force de le dire, il va peut-être falloir que je le fasse. Mais c'est vrai que là, j'étais vraiment focus sur Actapo, et je suis en même temps focus sur la refonte de la fleur de peau, et je fais plein de choses, comme vous pouvez l'imaginer, dans la gestion de The Good Balance. Donc c'est vrai que c'était pas la priorité à fleur de peau, mais là, elle commence à être la priorité. Donc du coup, je suis en train de retravailler dessus, je suis en train de le refondre, je suis en train de recréer des nouveaux ateliers et j'ai droit de pouvoir ouvrir ces portes et de vous faire une proposition pour celles qui souhaitent faire ce travail à mes côtés. Donc du coup, tout ça pour conclure que pour retrouver une peau saine, pour moi, le plus gros du travail, il a été sur mon état d'esprit. Ça a vraiment été un game changer, comme disent les Amerlocs. Et vraiment, le fait d'avoir changé tout ça, ma manière de voir le monde, et puis du coup, le fait d'avoir travaillé sur moi via des professionnels avec qui vraiment ça matchait, où je sentais que on était sur la même... même vibe, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi, que ça matche, quoi. Putain, je fais vachement d'anglicisme, en fait, je me rends compte. Des fois, je trouve pas les mots français, quoi. Et bref, donc j'ai dû réapprendre à m'apaiser, j'ai dû apprendre à me regarder à nouveau avec bienveillance dans le miroir, parce que j'ai souffert pendant très longtemps de dysmorphophobie. Et ça a été vraiment compliqué de vraiment lâcher prise là-dessus. Et j'ai dû aussi apprendre à laisser passer ce qui n'était pas utile pour moi. Donc, le fameux lâcher prise, quand on vous dit « faut que tu lâches prise », en fait, le lâcher prise, c'est tout simplement le fait de laisser passer ce qui n'est pas utile pour nous. Et ça aussi, ça s'apprend. Je le fais d'ailleurs dans la fleur de peau. Il m'a fallu aussi du temps pour accepter que j'avais fait ce que j'avais pu avec les ressources que j'avais en ma possession quand j'étais jeune adolescente et jeune adulte, avec tous ces problèmes d'anxiété et de peau. Il m'a fallu aussi du temps pour apprendre à me pardonner que j'ai pas pu tout gérer et que je n'ai pas le contrôle sur tout et que je ne peux pas régler tous les problèmes, dont les miens. C'est pas possible. Donc il m'a fallu me pardonner. Ça a été dur pour quelqu'un qui est très dans le contrôle, très rigide et qui a besoin que tout fonctionne. Sauf que là, en fait, ça fonctionnait pas. En fait, je voyais bien que vis-à-vis de ma famille, etc., je ne pouvais pas régler ça. C'est pas possible, ça pouvait pas partir de moi. Et donc, il a fallu me pardonner que j'étais pas en mesure de le faire et que j'avais fait ma part. Et que le plus important, c'était de m'occuper de moi. Et puis, il m'a fallu du temps pour apprendre à écouter donc mes besoins avant d'écouter les besoins des autres et pas de faire tout ce qu'on lui dit comme un bon petit soldat, mais de me faire passer moi avant tout. Il m'a fallu du temps pour tenter de comprendre pourquoi je me sentais si différente des autres autour de moi. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ma manière d'être au quotidien, elle conditionnait les personnes qui rentraient dans mon environnement. Ce qui voulait dire, en d'autres termes, que ce que nous sommes, nous le projetons. Et c'est très intéressant parce que ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup. Il y a des gens qui font des choses, qui disent des choses, qui ont un peu le syndrome du sauveur, qui veulent sauver tout le monde, etc., et qui après se sentent en fait complètement dépassés parce que du coup ils attirent plein de gens en mal-être, qui veulent des solutions, être aidés, etc. Parce qu'en fait ils ont projeté en fait tout simplement ça. Et ça, malheureusement, il faut avoir conscience que tout ce que tu projettes dans ton quotidien, en fait tu vas être un miroir pour les autres. Et donc forcément tu vas faire rentrer dans ton environnement des gens qui vont se sentir appelés parce que tu projettes. Donc si tu ne te respectes pas et que tu ne respectes pas les autres, il est très clair que dans ton environnement, tu auras des gens qui ne se respecteront pas et qui ne respecteront pas les autres. Ça, il n'y a pas à tergiverser, ça fonctionne comme ça. Les cons attirent les cons, généralement, donc c'est comme ça. Il m'a fallu du temps, justement, pour arriver à poser mes limites et à être respectée de la manière que je souhaitais et la manière la plus saine et la plus diplomate. C'est-à-dire que plutôt que rejeter les gens de manière négative, désagréable, ou en faisant genre silence radio, le truc le plus toxique à souhait, le plus malsain à souhait, il m'a fallu du temps pour apprendre à poser mes limites. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et je le fais d'ailleurs dans la fleur de peau. Donc pour guérir finalement ma peau, naturellement et définitivement, pour pas replonger, parce qu'on me dit des fois, mais dis donc, mais tu replonges pas. Non, je replonge pas, parce que je sais quelles étaient les causes de mon acné, et j'ai fait ce gros travail sur moi, donc il n'y a aucune raison que l'inflammation reparte, c'est pas possible. Donc, un vrai travail global sur soi va être indispensable pour trouver vraiment une guérison globale. Parce que si on ne le fait pas et qu'on continue de se ronger le sang, d'être dans l'émotion désagréable ou de ne plus rien du tout ressentir, d'être coupé de son corps, et ben on continue de s'enflammer de l'intérieur. On n'est pas apaisé, le système nerveux il n'est pas régulé, donc c'est impossible d'avoir une peau saine puisque tout est relié, la peau est reliée au système nerveux. Donc c'était important pour moi de repartager ça cette semaine, même si je l'ai déjà fait depuis des années de maintes et maintes manières, pour que vraiment... en tout cas, les nouvelles personnes qui arrivent aussi sur ce podcast aient conscience de ça. Et puis que les autres personnes qui ont peut-être oublié ça en cours de route, eh bien, se le remémorent. Et du coup, j'ai replanté une petite graine. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une belle semaine ou un beau week-end selon le moment durant lequel... Vous allez écouter cet épisode. Si, bien sûr, tu penses que ça peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas à partager cet épisode. Et puis aussi, n'hésite pas à lui mettre les 5 étoiles. C'est le plus beau cadeau que tu peux m'offrir pour me remercier contribuer de cette manière en te créant, évidemment, ces épisodes qui, j'espère, sont toujours là pour te nourrir. Peut-être parfois, sont désagréables à entendre, mais dis-toi toujours que c'est OK. C'est OK, ça fait partie du process. C'est OK, tu vas te sortir de tes problèmes de peau. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.